Bonjour, mes frères et sœurs. C'est merveilleux de vous voir tous en ce jour de la Pentecôte, ce jour solennel. Aujourd'hui, c'est une prière exaucée. On pourrait dire qu'aujourd'hui, la prière la plus importante qui ait jamais été faite a été exaucée. Allons à Jean 17. Nous nous rendons souvent à Jean 17 pendant le service de la Pâque. Nous l'étudions à l'avance. Nous le revoyons pendant le service. Mais ici, Christ prie le Père. Il prie le soir ou la nuit précédant sa crucifixion. On pourrait affirmer que c'est la prière la plus importante que Christ ait jamais prononcée. Les paroles les plus importantes qu'il ait jamais prononcées à l'intention du Père, du Créateur. Nous allons nous arrêter au verset 20. Nous lirons jusqu'au verset 22. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, pour eux seuls, en référence aux disciples, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Ainsi, tous les autres à travers les âges, on peut le dire rien qu'à partir de ce verset, à travers les âges, jusqu'à vous et moi aujourd'hui. Christ ne priait pas seulement pour les disciples, il priait pour vous et moi. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Et la gloire que tu m'as donnée, c'est-à-dire la gloire que le Père a donnée au Christ, je leur ai donnée, Christ nous la donne, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Voici donc une prière du Christ juste avant sa crucifixion. Il prie pour que nous soyons un avec Christ comme Christ est un avec le Père. Nous sommes un les uns avec les autres comme Christ et Dieu sont un l'un avec l'autre. Comment cette prière a-t-elle été exaucée ou a-t-elle commencé à être exaucée le jour de la Pentecôte? Comment cette prière, cette demande, a-t-elle commencé à s'accomplir? Passons au chapitre 2 des Actes. Nous savons tous que le chapitre 2 des Actes correspond au jour de la Pentecôte, le premier, le début de l'Église et de l'ère du Nouveau Testament. Commençons la lecture. Nous allons lire, nous ne lirons pas tout le chapitre, mais juste pour avoir une idée du chapitre, une idée de ce jour-là, une idée du fait que nous commençons à répondre à une question. Comment cette prière a-t-elle été exaucée? Et cela ira plus loin que cela seul. Mais ici, dans Actes 2, verset 1, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans le même lieu. Nous reviendrons sur ce passage et sur la manière dont il s'inscrit dans notre sujet. Et soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, se posant sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'une des choses que j'essaie de vous faire comprendre, c'est d'essayer de nous mettre à leur place. Essayons de nous imaginer dans cette pièce. Où, si vous lisez la suite, imaginez que nous sommes l'un des Juifs qui se rend ce jour-là au mont du Temple, qui vient ce jour-là pour faire son offrande comme il le faisait le jour de la Pentecôte, et qui ont voyagé de partout. Imaginez que vous veniez d'Athènes, en Grèce, peut-être de Rome, ou encore d'Égypte. Mettez-vous à leur place. Donnez vie à cette image, donnez vie à cette journée. Imaginez que vous étiez l'un de ces pèlerins et que vous entendiez les disciples parler, et les disciples parler dans votre langue. Imaginez que vous assistiez à ce miracle. Comment cela vous aurait-il ému? Comment cela vous émeut-il aujourd'hui? Tout au long de ce chapitre, essayez de vous projeter là-bas. À quoi cela aurait-il ressemblé? À quel point cela aurait-il été passionnant d'être là en tant que juif, selon ce qu'on vous a peut-être enseigné, en observant le sabbat de la manière possible, comme il le faisait. Vous vous demanderiez ce qui se passe. Vous vous demanderiez ce qui se passe ce jour-là. Que va faire Dieu? Que s'apprête-t-il à faire? Nous parlons ici de Dieu qui s'apprête à répondre à une prière du Christ. Passons au verset 21. Nous allons arriver à un point précis. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et cela se trouve au milieu du sermon de Pierre. Il aborde ensuite quelques autres points. Je voudrais passer directement au verset 36, à la fin de son sermon. Il explique donc ce qui se passe. Il explique ce qui se passe ce jour-là et ce qui s'est passé récemment avec le sacrifice et la résurrection du Christ. Et au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait de ce même Jésus, que vous avez crucifié, à la fois Seigneur et Christ. C'est la conclusion de son sermon. Et dans ma Bible, on m'a dit il y a de nombreuses années de rayer vous et d'y mettre mon nom. Ainsi, lorsque vous lirez cela à votre tour, lorsque vous le lirez aujourd'hui, imaginez que c'est votre nom qui est mentionné là. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Nous sommes la maison spirituelle d'Israël. Que Dieu a fait de ce même Jésus que vous. Mon nom, Ryan Dene. Avez crucifié. Mettez votre nom là. Comment cela? En passant au verset suivant, or, quand ils entendirent cela, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui l'entendirent dans leur propre langue maternelle, entendirent ce miracle, entendirent la vérité, ils furent transpercés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Ils ne furent pas simplement piqués, comme cela est traduit. Ils furent. Ce n'était pas juste une petite piqûre au cœur. Ils ont été transpercés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Ils ont été transpercés jusqu'à l'os. Ils ont été transpercés au cœur. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ainsi, ici, le début de la réponse à la prière du Christ est la réception du Saint-Esprit. Se repentir, être baptisé et recevoir le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Je vais lire ce verset, car il s'agit de tous ceux qui sont au loin. Tous ceux qui sont loin dans le futur à partir de ce moment-là, c'est-à-dire vous et moi. Les promesses qui nous sont faites. Et tous ceux que le Seigneur appellera, afin que nous puissions nous repentir, être baptisés, recevoir le Saint-Esprit. Et nous allons apprendre aujourd'hui, on va nous rappeler aujourd'hui que le fait de recevoir le Saint-Esprit, et que cela se soit produit le jour de la Pentecôte, a permis à la prière du Christ, pour que nous soyons un avec Christ et un avec le Père, de commencer à s'accomplir. L'importance, nous allons apprendre l'importance d'être un, d'être en unité comme Christ et le Père le sont, comme nous le sommes, et comme nous devrions l'être dans l'Église. Et comment nous devons nous efforcer d'avoir l'unité et d'être un dans nos vies. Et comment cela s'applique à l'avenir, et comment cela se produira à l'avenir. Apprenons-en un peu plus. Rappelons-nous un peu plus qui sont Dieu et Christ et comment ils ne font qu'un. Ils ont établi la norme. Ils ont placé la barre haut, pour ainsi dire. Ils ont placé devant nous l'objectif que nous voulons tous atteindre entre nous, et surtout, avec notre frère aîné et avec le Père. Allons à Jean 10, verset 30. Un verset simple, quelques mots simples, Jean 10. Verset 30. Seulement six mots. Christ déclare ici, alors qu'il est mis au défi par les Juifs, ce qui arrivait régulièrement, moi et le Père, nous sommes un. C'est simple. Dieu et Christ, ils ne font qu'un. Qu'est-ce que cette unité ? Comment peut-on la définir? Ils sont un en essence, ils sont un par nature, et pas seulement d'accord. Ils sont unis dans leur but, leur nature et leur volonté. Ils sont tellement un à certains égards qu'il est difficile de savoir qui est qui, à moins que la parole de Dieu ne nous le montre. Ils sont un et le même. Allons à Jean 6, verset 38. Que faisait exactement Christ lorsqu'il était sur terre? Deux êtres divins. Deux êtres divins qui ont la même capacité, les mêmes capacités. Oui, l'un est le Père, et l'autre est le Fils. Oui, deux rôles différents, mais ils ont la même volonté. Ils agissent toujours d'un commun accord et ensemble. Ils partagent le même objectif. Jean 6, verset 38, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici la volonté que le Père m'a donnée, que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Car la volonté du Père, c'est que je fasse la volonté du Père. Tous deux ne font qu'un dans tout ce qu'ils font, dans tous leurs desseins. Passons à Jean 14. Pouvez-vous imaginer ce que cela donnerait? C'est intéressant. Nous étions dans Jean 17, et ici nous abordons un point connexe concernant une prière exaucée. Mais Dieu, Christ devait encore demander à Dieu dans la prière le Saint-Esprit, afin que nous soyons un comme eux. Ce sont deux êtres qui ne font qu'un. On pourrait se demander, pourquoi Christ aurait-il dû demander à Dieu de faire quelque chose si leur volonté ne faisait déjà qu'un? Bien sûr, il y a de la communication. Il y a un va-et-vient entre les deux, entre ces deux êtres extraordinaires. Ils se parlent. Ils se font des demandes. Ils ne sont pas si unis qu'ils soient, en un sens, ils n'en ont pas besoin. Bien sûr, ils en ont besoin. Mais ici, dans Jean chapitre 14, à partir du verset 20, « En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » En ce jour-là, je voudrais juste m'étendre un peu, peut-être spéculer, à quel jour Christ faisait-il référence ici? C'est le jour de la Pentecôte. Cela peut aussi faire référence à d'autres jours. Mais, en ce jour-là, vous saurez que je suis le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, pour que nous soyons tous un ensemble, et pourquoi est-ce que je dis cela? Allons au verset 16. Ici, une autre prière exaucée. Cette prière n'a pas nécessairement été consignée. La demande, oui. Et dans un autre sens, nous lisons la parole de Dieu, nous lisons la Bible de Dieu. On pourrait dire que l'on voit ici une prophétie s'accomplir, comme au verset 16. Et voici ce que je veux dire, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il fait référence au Saint-Esprit. Afin qu'il ou qu'elle demeure avec vous pour toujours. Afin que le Saint-Esprit soit avec vous pour toujours. Et au verset 20, et en ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Nous le savons d'après les actes que nous lisons, et ainsi nous recevons le Saint-Esprit, et nous apprendrons. Avoir le Saint-Esprit nous aidera à ne faire qu'un avec Dieu. Christ a demandé que le Saint-Esprit soit envoyé. C'était des jours, de nombreux jours, avant que la Pentecôte ne s'accomplisse. En un sens, Christ regardait vers l'avenir. Christ prophétisait que cela arriverait, et cela s'est produit. Cela prouve aussi, d'une certaine manière, non pas le fond du message, mais c'est intéressant, cela prouve l'autorité de la Bible que nous lisons, car nous voyons les paroles du Christ, les demandes du Christ, s'accomplir dans le futur. Nous tous qui sommes baptisés et qui avons le Saint-Esprit de Dieu, Nous faisons partie de cet accomplissement. Nous participons à l'accomplissement qui consiste à voir la Bible prendre vie dans nos vies aujourd'hui. En ce jour, on peut dire, même si cela demande un petit effort d'imagination, mais en ce jour de la Pentecôte, vous verrez que je suis dans le Père, et vous en moi, et moi en vous. Voir cela s'accomplir et en faire partie aujourd'hui. Le point important ici est de voir à quel point Dieu et Christ sont proches l'un de l'autre. Ils ne font qu'un, dans un seul dessein, dans une seule nature, dans l'unité, dans la plénitude. Maintenant, apprenons et rappelons-nous que l'Église est unifiée en un seul corps. Dieu et Christ ne font qu'un, et nous sommes dans l'Église. Il est important de comprendre comment les demandes du Christ et sa prière pour que nous soyons tous un, comment cela se rapporte-t-il à l'Église? Comment cela se rapporte-t-il à nous? Comment, que pouvons-nous en tirer comme enseignement et mettre en pratique? Allons à Acte 2, verset 1. J'ai mentionné que nous reviendrions ici, que nous reviendrions à ce chapitre à plusieurs reprises. Mais Acte 2, verset 1. Puisque la prière de Christ était que nous soyons un, comment la journée a-t-elle commencé? Comment la Pentecôte a-t-elle commencé? Je sais que nous venons de le lire, mais relisons-le. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans le même lieu. Ainsi, tous les disciples de Dieu, à ce moment-là, ont commencé la journée ensemble au même endroit. D'un commun accord, en harmonie, agissant ensemble, en communion les uns avec les autres, attendant à ce moment-là, juste au début du chapitre, au début de la journée, attendant que le Saint-Esprit soit donné à la Pentecôte. Ils étaient là ensemble. Passons maintenant au verset 46. C'est le jour même où l'Église a vu le jour. Comment cette journée s'est-elle terminée? En fait, commençons par lire le verset 44. Ils ont donc commencé d'un commun accord en un seul lieu, l'Église, les disciples qui étaient rassemblés, les quelques-uns qui étaient encore là, attendant et croyant que la parole de Dieu s'accomplirait ce jour-là. Et au verset 44, tous ceux qui croyaient étaient ensemble et mettaient tout en commun. Ils étaient donc ensemble. Tous ceux qui croyaient. À la fin de cette journée, après que les 3000 eurent été baptisés, tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils ne faisaient qu'un. Et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Verset 46. Et ils persévéraient, persévérant chaque jour d'un commun accord dans le temple, rompant le pain de maison en maison pour prendre leur repas avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Vraiment, verset 46, encore une fois, ils terminent la journée en rompant le pain d'un commun accord. Ils nous donnent l'exemple que nous devons suivre chaque fois que nous sommes ensemble, rompre le pain, vivre en communion, apprécier la compagnie les uns des autres, et surtout, grandir ensemble. Apprenons, allons à Galates 3, verset 28, afin de nous représenter l'Église unifiée et formant un seul corps. Galates 3, verset 28. Je m'amuse un peu avec ce verset. Au verset 28 de Galates 3, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ donc, encore une fois, pour expliquer ce qu'est l'Église, ce qu'elle devrait être, il n'y a ni juif ni grec. Prenons donc une traduction un peu plus libre, une traduction plus moderne, adaptée à l'époque dans laquelle nous vivons. Ce que dit ce verset me frappe, mais que dirions-nous aujourd'hui? Comment rédigerions-nous ce verset si nous devions l'écrire pour expliquer ce qu'est l'Église, ce que vous et moi sommes, ce que vous et moi devrions nous efforcer d'être? Nous ne sommes ni républicains, ni démocrates, ni libéraux, ni conservateurs, ni partisans de MAGA, ni progressistes. Quelle longueur aurait cette liste? Tout cela, nous le laissons derrière nous. Tout cela, nous le laissons de côté. Tout cela, nous le mettons de côté. Il n'y a ni grec, ni juif. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un dans l'Église. Toutes ces choses sont mises de côté. À l'époque, dans la société où nous vivons, toutes ces choses peuvent si facilement s'insinuer dans nos esprits, s'insinuer dans nos pensées. Mais c'est ainsi que Dieu veut que nous soyons un, et un dans le corps. Amusons-nous un peu avec les mots, et voyons comment une traduction moderne libre pourrait les rendre. Passons à 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, et nous commencerons la lecture au verset 12, à la Pentecôte. Cela illustre les débuts de l'Église. C'est comme l'anniversaire de la naissance de l'Église, lorsque le Saint-Esprit a été donné. Parfois, je pense que certains le font, et ce n'est pas du tout une mauvaise habitude. Quand vient l'anniversaire d'un pays, ou le 4 juillet, les gens pensent à la Constitution ou y réfléchissent. En étudiant ce chapitre, cela m'a un peu rappelé qu'il s'agit en quelque sorte d'une lecture de la Constitution de l'Église. Comment sommes-nous constitués? Comment sommes-nous organisés? C'est le thème de tout le chapitre. Nous en lirons des extraits ou la majeure partie, mais c'est vrai, la Pentecôte est véritablement l'anniversaire de l'Église de Dieu. Et comment l'Église de Dieu est-elle constituée? Comment formons-nous tous un seul corps et sommes-nous unifiés dans l'Église? Unifiés en fin de compte en Dieu et en Christ. Verset 12 de la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Verset 12. Et de même que le corps est un et a de nombreux membres, et que tous les membres de ce corps, bien que nombreux, ne forment qu'un seul corps, ainsi en a-t-il de nous tous en Christ. En Christ et dans le Père. Car par un seul esprit. L'esprit qui a été donné ce jour-là. Nous avons tous été baptisés en un seul corps. Ainsi, sans cet esprit unique, sans cet esprit donné le jour de la Pentecôte, nous ne pouvons pas tous être baptisés en un seul corps. Comment cette prière a été exaucée? Que nous soyons juifs ou païens, esclaves ou libres. Peu importe d'où nous venons, peu importe notre origine. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Car le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Continuons notre lecture. Si le pied dit, « Parce que je ne suis pas la main, je ne fais pas partie du corps. » Il donne ici un exemple. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des rôles différents. Nous occupons tous des places différentes dans le corps. Nous avons tous des responsabilités différentes. Mais ici, Paul, inspiré par Dieu, propose cette analogie. Une analogie que nous comprenons tous très bien. Les parties de notre corps ont toutes des fonctions et des rôles très importants, et sans elles, nous ne fonctionnerions pas très bien nous-mêmes. Voyez comment cela s'applique à nous, et s'applique à ce qu'est l'Église, et à la manière dont elle est constituée. N'est-elle donc pas du corps? À la fin du verset 15, « Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne fais pas partie du corps, est-ce pour autant qu'elle ne fait pas partie du corps? Pouvez-vous imaginer, juste un instant, que vos oreilles disent, « Je ne veux plus entendre. Je veux être un œil. » Imaginez un peu, comment cela fonctionnerait-il? Comment cela fonctionnerait-il si les nerfs de votre tête s'embrouillaient et disaient, « Vous savez quoi? Non, l'oreille va désormais voir, et l'œil va entendre. » Eh bien, nous ne fonctionnerions pas très, très bien. Appliquez simplement cela à chacun d'entre nous, là où nous sommes. C'est une grande bénédiction que nous soyons appelés dans l'Église de Dieu. C'est une bénédiction incroyable, mais nous occupons une place particulière. Dieu, Christ, nous a placés là. Et nous devrions être émerveillés par la place que Dieu nous a donnée. Verset 17. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a disposé les membres, chacun d'entre eux, disposez les membres, disposez-vous et moi, chacun d'entre eux, dans le corps, comme il lui a plu. Comme il a plu à Dieu. Comme il a plu à Dieu, le Père et Christ, c'est là que nous sommes placés. Et s'ils formaient tous un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres, et pourtant un seul corps. Nous sommes plusieurs membres, nous sommes plusieurs membres dans cette salle, nous sommes plusieurs membres à travers le monde. Partout dans le monde, des frères célèbrent aujourd'hui le jour de la Pentecôte. Et ils le célèbrent comme un seul corps, dans un seul but. Et je ne peux pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Encore une fois, cela dépeint simplement ce que nous sommes. Non, bien au contraire, les membres du corps qui semblent les plus faibles sont indispensables. Et les membres du corps que nous estimons les moins honorables, c'est à cela que nous devons accorder un honneur plus grand, et nos parties les moins présentables ont une beauté plus grande. Car nos parties présentables n'en ont pas besoin, mais Dieu a composé le corps, à, pour Dieu. Quels que soient nos membres, quels que soient nos rôles, qui que nous soyons, d'où que nous venions, quelles que soient nos aptitudes, nos capacités, quoi qu'il en soit, qu'elles soient grandes ou petites, Dieu dit, car, mais Dieu a harmonisé le corps. Il a assemblé le corps. Il a mis le corps en place. Assemblé, je pense à l'affinage de l'acier, au soudage de l'acier. Assembler l'acier, en éliminer les impuretés. Dieu nous a assemblés aussi étroitement. Ayant donné plus d'honneur à la partie qui manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient le même souci les uns pour les autres. Il n'y a donc pas de fossé dans le corps, il n'y a pas de fossé entre nous. Encore une fois, nous parlons ce matin de la façon dont l'Église devrait être une, comme Dieu et Christ sont un. Il n'y a pas de fossé entre nous, il n'y a pas de fossé entre aucun d'entre nous. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ou si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et ne le voyons-nous pas ensemble? C'est un verset vraiment réconfortant, car nous le voyons se réaliser dans la pratique. Quand l'un d'entre nous souffre, nous souffrons tous ensemble. Nous prions tous ensemble. Nous nous soutenons tous les uns les autres. Nous sommes tous en contact les uns avec les autres pour nous soutenir mutuellement. Et, bien sûr, lorsque l'un est honoré, nous nous réjouissons tous ensemble. Lorsque nous voyons la croissance, lorsque nous voyons les bénédictions, nous voyons cela d'une certaine manière régulièrement et quotidiennement, les deux côtés de la médaille. C'est ce que nous sommes. Or, vous êtes le corps du Christ et, individuellement, vous en êtes les membres. Et Dieu a établi certains. Je ne fais que parcourir la structure, en quelque sorte, en lisant la constitution de l'Église. Dieu a établi certains dans l'Église, d'abord des apôtres, ensuite des prophètes, ensuite des enseignants, puis ceux qui font des miracles, ensuite ceux qui ont le don de guérison, ceux qui apportent de l'aide, ceux qui dirigent, ceux qui parlent en langue. Et puis cela continue, sont-ils tous apôtres? Sont-ils tous prophètes? Sont-ils tous enseignants? Sont-ils tous faiseurs de miracles? Ont-ils tous le don de guérison? Parlent-ils tous en langue? Interprètent-ils tous? Non, tout le monde ne fait pas tout. Nous avons tous notre place particulière. Mais recherchez ardemment les meilleurs dons, et je vous montrerai une voie encore plus excellente. Ce qui est intéressant, si l'on se réfère au verset 28, c'est que cela commence, bien sûr, par les apôtres. Mais il y a là un petit mot, les services. Quelle ampleur peut avoir un service? Une petite chose, un petit bienfait pour l'un d'entre nous lorsque nous devons nous entraider. À quel point ces choses peuvent-elles être insignifiantes? Pourtant, elles sont énumérées ici, parmi d'autres choses, parmi les apôtres, les prophètes, les enseignants, les miracles, les guérisons, les aides. À quel point une aide peut-elle être minime? À quel point cela peut-il être insignifiant? Toutes les parties du corps. Et comme nous le lisons, or, nous sommes membres du corps de Christ, au verset 27. Quelle image cela nous montre-t-elle? Elle nous montre comment nous devons tous être. Comment s'étendent les demandes du Christ à notre égard, à l'égard de Dieu le Père et de lui, et comment nous devons être. Passons à Éphésiens 4 pour en voir un peu plus et mieux comprendre le but. Nous avons terminé 1 Corinthiens 12 par une liste des devoirs, la liste des ministères de l'Église. À quoi sert ce gouvernement? À quoi servent ces ministères? Que devons-nous faire dans l'Église? À quoi devons-nous prendre part? Nous avons lu cela, nous le lisons ici. On pourrait dire, en quelque sorte, que nous poursuivons sur le même thème, celui de la Constitution. Un aspect différent de celle-ci. Reprenons notre lecture, au verset 11. Nous allons relire certains de ces ministères, mais nous allons voir quel est leur but, et comment cela rassemble le corps, comment cela maintient le corps uni. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et ici, au verset 12, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Donc, tout cela est là pour, j'ai énuméré trois choses. Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, et pour l'édification du corps de Christ. C'est pour cela qu'ils sont là. Ils sont là pour que vous et moi soyons édifiés, pour que vous et moi soyons parvenus à la perfection, pour que nous soyons aidés, pour que nous soyons finalement, pour que nous ne fassions qu'un d'une manière dont nous ne pouvons être un tant que nous ne sommes pas dans la famille de Dieu. Lisons le verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. La plénitude de Christ, c'est la manière dont il était un avec Dieu, la manière dont lui et Dieu ne font qu'un. C'est cette unité, cette harmonie à laquelle nous aspirons tous et que nous atteignons grâce à l'aide du ministère et du gouvernement de Dieu. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Un avantage qui en découle. Un rappel ici, au verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés çà et là, emportés par tous les vents de la doctrine, par la ruse des hommes et par les stratagèmes astucieux avec lesquels ils tendent des pièges pour tromper. Grâce à notre position, à notre place au sein du corps, dans l'Église, et à notre unité, nous ne sommes pas ballottés, d'un côté et de l'autre, emportés par tous les vents de doctrine, tous les courants d'enseignement. Nous pourrions l'être, et je ne le recommande pas, et en fait je ne le fais pas, par tous les vents de doctrine. Je me demande si vous alliez sur AI, que vous faisiez une recherche et disiez, AI, Donne-moi tous les vents de doctrine sur cet enseignement particulier de la Bible, combien de temps cela prendrait-il pour faire cette recherche, et quelle longueur aurait la liste obtenue? Chaque vent de doctrine. Nous pourrions ignorer la réponse parce que nous n'avons pas besoin de la lire, mais surtout à cause du verset, à cause de l'endroit où nous sommes. Il nous est commandé de tout ignorer. Absolument tout. Mais imaginez la longueur de cette liste. De nos jours, tous les courants doctrinaux, dans chaque église, dans chaque organisation qui existe. Et quelle bénédiction pour vous et moi d'appartenir à la seule véritable église, dirigée par le ministère, dirigée par l'apôtre de Dieu. Comme cela nous enracine dans la vérité. Et au verset 15, je voulais lire un peu plus loin, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses vers celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Pour qui tout le corps, bien coordonné. Montrant ici encore comment nous sommes, comment nous devons être un. Bien coordonné, soutenu par ce que chaque jointure fournit, selon l'action efficace et la mesure de chaque partie, faisant croître le corps pour s'édifier lui-même dans l'amour. Ainsi, en fin de compte, véritablement, nous sommes unifiés dans la vérité et dans l'amour par le Saint-Esprit de Dieu. Et à quel point nous devons être étroitement unis, bien assemblés, soutenus par ce que chaque jointure fournit. Si étroitement qu'il n'y a aucun espace entre nous. Aucun espace. Cela brosse un tableau si merveilleux de ce qu'est l'Église, de ce qu'est l'Église unifiée dans le corps de Christ, en lisant à la fois la première épître aux Corinthiens et Éphésiens 4. Je vais donc passer à ce qui est, j'en suis sûr, l'un de nos versets préférés, le psaume 133 verset 1. Revenons un instant à l'Ancien Testament. L'effet de tout cela. L'effet de tout ce que nous venons d'aborder, de ce qu'est l'Église, de ce qu'est le corps et de ce dont nous faisons tous partie, nous, les membres, guidés par le Saint-Esprit. Et l'effet et le fruit de tout cela seront et sont déjà là. Et nous le voyons souvent parmi nous tous. Psaume 133, verset 1. Voyez comme il est bon, comme il est agréable pour des frères de vivre ensemble dans l'unité. Et comme c'est beau. Voyez comme il est bon, comme il est agréable pour des frères de vivre ensemble dans l'unité. C'est ainsi que Dieu veut que nous soyons et c'est ainsi que, dans Jean 17, Christ a prié pour nous. Mais qu'en est-il de nous? Nous avons parlé de l'Église, de Dieu et du Christ, et de leur unité, mais que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire personnellement pour être un? Pour être unis les uns avec les autres, pour être unis avec Dieu, que devons-nous faire? Eh bien, allons à Actes 2, verset 38. Pour rappel, nous y étions tout à l'heure, je veux juste le relire. Que devons-nous faire? Si Christ a prié pour que nous ne fassions qu'un avec lui et avec Dieu, que devons-nous faire? Actes 2, verset 38. Encore une fois, nous connaissons bien ce verset. Alors Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est simple. C'est un rappel. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, c'est une instruction. C'est quelque chose que vous voulez tous faire, car vous ne pouvez pas y être sans cela. Et ce que je veux dire, c'est que nous savons tous que nous devons nous repentir, que nous devons être baptisés, et qu'ensuite nous recevons le Saint-Esprit. Et pour nous tous qui avons le Saint-Esprit, quel rappel cela représente-t-il de l'endroit où nous devons être et continuer d'être afin de pouvoir être un? Passons à 1 Jean 4, verset 13. Il s'agit de la réception de ce Saint-Esprit que nous avons tous en nous. 1 Jean 4, verset 13. 1 Jean 4, Verset 13 n'utilise pas nécessairement le mot « un » ou « unité » ici, mais il explique « après avoir reçu le Saint-Esprit lors du baptême, qui nous sommes, ce que nous sommes, ce qui est en nous ». Verset 13 « C'est à cela que nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné son esprit. C'est Christ ou Dieu. Nous savons donc qu'il demeure en nous, et nous en lui, parce qu'il nous a donné son esprit. La seule façon d'être un est de recevoir cet esprit. Et nous avons vu et nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. » Verset 15. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous ne pouvez le faire que par le Saint-Esprit. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Mais en fin de compte, ce n'est pas seulement ce passage. Il y a plus que cela dans cette déclaration, et nous pouvons voir que Dieu nous a donné son esprit. Revenons à Acte 38, oui, la repentance et le baptême. On ne peut pas simplement. Le monde le prend parfois ainsi. Il suffit de confesser Jésus, et on est sauvé. C'est tout. Non. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas tout. Il y a bien plus que cela, et on le voit facilement. Passons à Jean 15. Nous avons donc le Saint-Esprit. Nous nous sommes repentis, nous avons été baptisés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous voyons qu'il est en nous, et le fait qu'il soit en nous permet au Christ et au Père d'être en nous et à nous d'être en lui, en eux. Dans Jean 15, verset 14. Oh, excusez-moi. Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. J'y arrive. Donc, si nous avons reçu, nous nous sommes repentis, nous avons été baptisés, nous avons reçu le Saint-Esprit, et nous avons lu qu'il est en nous, et nous en eux, c'est le début de l'unité, et voici un verset important. Un verset important à retenir, demeurez en moi, et moi en vous. Voilà donc une autre description de ce qu'est l'unité. Si Christ est en nous, et que nous sommes en lui, et que ses pensées et son esprit sont en nous, nous sommes ensemble. Nous ne faisons qu'un. De même que le sarment ne peut porter de fruits de lui-même s'il ne demeure pas sur le cep, de même vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Nous ne pouvons donc pas porter de fruits, nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas vaincre, nous ne pouvons pas poursuivre notre chemin si nous ne restons pas attachés au cep, si nous ne restons pas un avec Christ et avec Dieu. Allons à Romains 8. Nous avons donc l'Esprit en nous, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Allons à Romains 8. Décrivons plus en détail comment il nous guide, comment il fait partie de nous, comment il devrait diriger nos pensées et, en quelque sorte, diriger nos pas. Romains 8, verset 9. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si donc l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas à lui. Donc, tout simplement, pour revenir sur ce qui a été dit précédemment. Si l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, n'est pas en nous, nous ne sommes pas à lui. Nous ne pouvons pas être un. Nous ne pouvons pas être un avec Dieu et Christ. Et si Christ est en vous? Lisons le verset 10. Je vais le lire. Lisons jusqu'au verset 14, le point auquel je veux en venir. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'ancien corps est mort, il a disparu, mais l'esprit de vie, ainsi, l'esprit de vie est vie. Ainsi, l'esprit que nous recevons pour ne faire qu'un avec Dieu nous apporte la vie, nous donne la vie. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Car si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si, par le corps, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Juste un rappel. Cela nous aide à voir notre vocation et où nous en sommes, ainsi que l'importance d'être guidés par l'Esprit. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, eux qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et ceux qui sont conduits par cet Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Quel verset encourageant! Un verset qu'il ne faut pas lire à la hâte, ni prendre à la légère, ni lire sans s'arrêter pour réfléchir à ce qu'il signifie. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est vous et moi. Chacun d'entre nous aujourd'hui, avec le Saint-Esprit en nous, Dieu nous appelle déjà fils de Dieu. Il l'appelle ainsi comme si c'était déjà le cas, comme si cela allait être, comme ce que cela sera. Comme c'est encourageant. Chacun de nous est un fils, est un enfant de Dieu. Gardez cela à l'esprit. Nous devons tous toujours garder cela à l'esprit. Mais, pour continuer, vers quoi cet esprit nous conduit-il? Qu'est-ce que cet esprit? Allons à 1 Jean 4, verset 6. D'autres descriptions de cela. D'autres descriptions de la prière exaucée le jour de la Pentecôte. 1 Jean 4, verset 6. Et voici ce que nous lisons, en nous plongeant un peu dans le contexte. Cela reprend un peu ce que nous venons de lire dans Romains. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Ainsi, nous qui sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Donc, si vous êtes guidés par le Saint-Esprit, celui qui connaît Dieu nous écoute. Il entend ce qui est enseigné, il entend les messages, il comprend les messages, il est touché par les messages transmis par le ministère de Dieu. Encore une fois, en élargissant cela à l'Église de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc ici, celui qui n'est pas guidé par l'Esprit ne peut pas nous entendre. C'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Ce sur quoi nous voulons nous concentrer, c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, il nous conduit dans toute la vérité, il nous guide dans toute la vérité. Ainsi, dans Romains, si vous êtes conduit par l'esprit, vers quoi l'esprit nous conduit-il en fin de compte? À travers le ministère, à travers les messages, à travers ce qui nous est enseigné, il nous conduit dans toute la vérité. Une étape qui nous conduit à ne faire qu'un avec Dieu et Christ. Passons à 1 Jean 3, verset 24. Cela se trouve peut-être sur la même page dans certaines de vos Bibles. 1 Jean 3, verset 24. Nous avons l'Esprit. Il nous guide. Il nous conduit dans la vérité. Que nous conduit-il à faire? Que nous conduit-il à mettre en pratique? Que nous conduit-il à observer? Ce sont là toutes les choses que nous devons faire afin que la prière du Christ puisse s'accomplir. Et celui qui garde son commandement demeure en lui, et lui en lui. Donc, encore une fois, les mots, la formulation que nous avons vue auparavant. Ainsi, celui qui garde ses commandements, les commandements de Dieu, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, si vous gardez les commandements de Dieu, vous ne faites qu'un avec Dieu. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Revenons à ce point, sans l'Esprit, sans que l'Esprit nous soit donné ce jour-là, sans que cela se soit produit lors de la toute première Pentecôte, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Nous ne serions pas capables de garder ses commandements et de demeurer en Dieu et Dieu en nous. Ainsi, pour être guidés par le Saint-Esprit, Nous devons garder ses commandements, et tout ce que cela implique. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Passons au psaume 40, verset 8. Un petit rappel pour développer un peu ce point, puisque nous avons un peu de temps. Psaume 40, verset 8. Mais que devons-nous faire? Nous sommes donc un avec Christ, bien sûr, baptisés, nous recevons le Saint-Esprit, guidés par l'Esprit dans toute la vérité, nous observons ses commandements. Et maintenant, psaume 40, verset 8. C'est simplement l'état d'esprit que nous devrions avoir. Je crois que c'est un psaume de David, ou une prière, ou un chant de David. Je prends plaisir à faire ta volonté. Je prends plaisir à faire ta volonté, la volonté de Dieu. Ô mon Dieu, oui, ta loi est dans mon cœur. Nous venons donc d'apprendre, nous venons de lire les commandements. Si vous gardez les commandements, vous êtes en lui et lui en vous. Et voici le psaume du roi David, je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu, oui, ta loi est dans mon cœur. Sa loi est dans son cœur, la loi de Dieu est dans le cœur du roi David, et le seul moyen d'y parvenir, c'est par le Saint-Esprit. Nous devons donc chercher à faire la volonté de Dieu. Nous devons avoir cette attitude, celle de prendre plaisir à faire la volonté de Dieu. Et le contraire de cela serait de faire sa propre volonté, de s'en détourner, et de ne prendre plaisir qu'à, non pas à faire ce que vous voulez faire, ce que vous et moi voulons faire, ce que nous voulons faire nous-mêmes, mais à faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Nous avons lu tout à l'heure ce que Christ a fait. Il prenait plaisir à faire la volonté de Dieu. C'était son seul but lorsqu'il est venu sur terre, faire la volonté de Dieu et tout ce que cela impliquait. Passons simplement à Galates 5, qui est un bon rappel des fruits de l'esprit, des fruits de la chair, des débuts de l'Église et de la réception du Saint-Esprit. Tout ce que nous sommes appelés à faire dans l'Église, tout ce que nous sommes appelés à faire dans nos vies, et nous devons être un. Une liste doit être activement travaillée et éliminée. Une liste doit être activement développée, construite et cultivée dans nos esprits et dans notre mode de vie, en édifiant finalement le caractère de Dieu. Lisons simplement tout cela pour nous faire une idée. Pour nous faire une idée de l'endroit où, de la manière dont vous et moi devons être un avec Dieu. À partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la débauche. Maintenant, lisez chacune de ces choses comme des obstacles qui nous empêchent d'être un avec Dieu, d'être un avec notre Créateur, d'être un avec notre frère aîné, avec notre Sauveur. Chacune de ces choses nous empêche d'être un avec eux. Continuons la lecture. L'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les querelles, les rivalités, la colère, les disputes, les dissensions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, et autres choses semblables. La liste continue. La liste pourrait s'allonger. Je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit autrefois, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume. Ainsi, en fin de compte, ceux qui commettent ou qui s'entêtent de telles choses n'hériteront pas du royaume, ne seront pas un avec Dieu. Mais, ce qui est important, ce sur quoi nous voulons nous concentrer, ce que nous voulons intégrer à notre vie et développer dans notre vie, mais le fruit de l'Esprit, l'Esprit qui, comme nous l'avons vu, a été donné le jour de la Pentecôte, c'est l'amour, la joie. Plus vous en avez, plus vous en possédez dans votre vie, plus vous êtes proche de Dieu, plus vous êtes en union avec votre Créateur. Plus vous avez d'amour, plus de joie, plus de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, le verset conclut, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Mais toutes ces choses, à mesure qu'elles se développent dans nos vies, à mesure que nous permettons à l'esprit de nous diriger, de guider ces éléments dans nos vies, d'éliminer les autres mais de développer ceci, plus nous nous rapprochons de notre Créateur, plus nous nous rapprochons de notre frère aîné, plus nous pouvons être en harmonie avec eux deux. Et nous avons vu ce que nous devons faire. Nous avons vu ce qui nous a été donné, mais nous, en quelque sorte, nous nous préparons pour l'avenir. Nous nous préparons pour les temps à venir. La Pentecôte, le don du Saint-Esprit et la réception du Saint-Esprit n'étaient qu'une étape vers des choses finalement bien plus grandes et plus importantes. Nous savons qu'à l'avenir, tout ne fera qu'un. Tous ceux qui n'ont jamais vécu, voilà avec qui Dieu veut ne faire qu'un. Chacun de ses enfants qui n'a jamais foulé cette terre. Tel est le but ultime de Dieu. C'est là la réponse ultime, à la prière de Jean 17. Passons à Jean 10, verset 16. Concentrons-nous sur la fin de ce verset précis. On peut l'interpréter de diverses manières, mais ce qui importe, c'est l'état d'esprit dont fait preuve Christ ici, et en fin de compte, celui dont fait preuve Dieu. C'est une vision tournée vers l'avenir. C'est ce que tous deux désirent, c'est leur objectif commun. Nous allons lire le verset entier, le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Et elles écouteront ma voix. Cela s'applique de différentes manières, peut-être pas exactement celles dont nous parlons ici. Mais je veux m'attarder sur la dernière partie. Et il y aura une seule bergerie et un seul berger. À l'avenir, dans les temps à venir, Christ, Dieu veut qu'il y ait une seule bergerie, un seul berger. Et nous connaissons, dans le royaume, en fin de compte, le plan de Dieu. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Telle est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut, pour toute l'humanité, un seul troupeau, un seul berger. Passons à Éphésiens 1, verset 10. Ainsi, peu importe d'où nous venons, peu importe où nous avons été, et tous ceux qui nous ont précédés et qui ont vécu avant nous sur cette terre, oui, nous avons le grand privilège de recevoir aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est une grande responsabilité qui nous offre une formidable opportunité alors que le plan de Dieu continue de s'étendre. En fin de compte, le but et l'espoir de Dieu sont que nous soyons tous unis. Tout le monde. Le Dieu merveilleux que nous servons. Éphésiens 1, verset 10, afin que, lorsque les temps seront accomplis, il rassemble en un tout toutes choses en Christ, tant celles qui sont dans les cieux, que celles qui sont sur la terre, et même en lui. Ainsi, dans la dispensation de la plénitude des temps, c'est-à-dire la plénitude des temps, à la fin des temps, et c'était le moment où toutes choses se rejoignent, il puisse rassembler en un tout toutes choses en Christ. Prenez toutes comme signifiant toutes. Prenez toutes comme signifiant tous ceux qui n'ont jamais vécu. Rassemblez-nous tous en Christ. Or, pas maintenant, pas en cette époque, pas dans ce monde, pas tous ceux qui sont en vie aujourd'hui n'ont cette opportunité. Nous l'avons. Mais Dieu fera en sorte que tout le monde ait cette opportunité. C'est son dessein. Et encore une fois, cela se rapporte à la prière et au début de l'Église et la Pentecôte, ce que Dieu veut accomplir avec toute l'humanité. Allons à Jérémie chapitre 32, verset 39. Je vais lire quelques versets tirés des prophètes. Et ici, oui, les circonstances particulières de la prophétie, les points particuliers du plan de Dieu. Mais ce sur quoi je veux m'attarder, c'est la formulation, l'intention, ou, vous savez, en quelque sorte, Où se trouve le cœur de Dieu dans cette affaire? Quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire? Pourquoi Christ a-t-il fait cette prière? Pourquoi avons-nous le jour de la Pentecôte? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné à nous tous? Quel en est le but ultime? Jérémie 32, verset 39. Je leur donnerai un seul cœur et une seule voix. Dieu veut que nous soyons un. Dieu veut que toute l'humanité soit une. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Oui, cela parle peut-être spécifiquement d'Israël. Cela peut aussi s'appliquer à toute l'humanité, et s'applique véritablement à toute l'humanité, et ils seront mon, juste le verset 38. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, et je leur donnerai un seul cœur et une seule voix, afin qu'ils me craignent pour toujours, pour leur bien et celui de leurs enfants après eux. Mais ici, regardez cela. Décomposez-le un peu, examinez-le un peu. Un seul cœur, une seule voix. C'est ce que Dieu veut pour tous les hommes. Qu'ils me craignent pour toujours. Qu'ils ne fassent qu'un avec moi pour toujours. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que le Père et Christ veulent. Passons à Sophonie 3, verset 9. L'importance de l'unité est présente tout au long de la Bible. Ce ne sont finalement que quelques-uns des versets que l'on peut lire. Sophonie 3, verset 9. Encore une fois, tournez vers l'avenir, tournez vers le futur dans le plan de Dieu et le royaume de Dieu. Nous savons combien de temps durera le royaume, combien de milliers d'années. Car alors, verset 9, Sophonie 3, verset 9. Car alors je rendrai au peuple une langue pure, afin qu'ils invoquent tous le nom du Seigneur et le servent d'un commun accord. D'un même esprit, d'un même accord. Que tous invoquent le nom du Seigneur, que tous invoquent Dieu, et qu'ils le servent ensemble, d'un commun accord. Ce que Dieu attend avec impatience, c'est ce moment dans l'avenir, et ce qu'il a commencé ce jour-là. Passons à Ézéchiel 37, verset 22. Il est utile de voir que, oui, le jour de la Pentecôte, ce fut le début de l'Église, ce fut la réception du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit, mais dans quel but? Où tout cela mènera-t-il? Et nous venons d'en lire quelques-uns, et il y en a beaucoup d'autres. Quelques versets qui montrent où Dieu veut que toute la création aille, ce qu'il veut que tous ses enfants soient. Où en étions-nous? Ézéchiel chapitre 37, verset 22. Mon écriture est si lisible que j'ai failli aller à l'Ecclésiaste. Et il n'y a pas d'Ecclésiaste chapitre 37. J'en suis presque sûr. Très bien, 22. Ézéchiel 37, verset 22. Je ferai d'eux une seule nation, un seul peuple, sur le sol et dans les montagnes d'Israël. Un seul roi régnera sur eux tous, et ils ne formeront plus de nation. Bien sûr, Israël et Juda sont ici réunis. Mais le cœur et l'intention de Dieu sont qu'ils ne forment qu'une seule nation, et qu'en fin de compte, tous les peuples ne forment qu'un seul peuple sous Dieu. C'est là le but ultime de ce qui a commencé à la Pentecôte. Lorsque Dieu a commencé à répondre à la prière du Christ dans Jean 17, versets 21 et 22, c'est là que Dieu a commencé à répandre son Saint-Esprit sur quiconque l'invoquait, et sur quiconque il appelait à le recevoir. Et le but ultime, en fin de compte, c'est d'être un. Nous avons donc maintenant cette opportunité, puisque nous avons été appelés et avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons maintenant cette opportunité d'être un avec Dieu. D'être un dans le sens et le but où nous nous efforçons d'être comme Dieu et Christ sont un. Nous l'avons appris ce matin. L'importance de cela et comment ils sont. Un seul but. L'unité en tout. Et c'est là notre référence, notre norme, notre objectif. Et dans l'Église. Quels que soient nos antécédents, d'où que nous venions, qui que nous ayons été avant d'être appelés, nous devons être unis en un seul corps dans l'Église de Dieu, guidés par son gouvernement et son ministère, avec pour but ultime de faire partie de la famille de Dieu. Mais peu importe d'où nous venons, peu importe où nous sommes placés, et nous apprenons que Dieu nous place là où il veut que nous soyons, là où cela lui apporte de la joie, là où nous sommes dans son Église. Quelle joie cela représente chaque année! Oui, le royaume viendra, et nous nous attendons à ce qu'il vienne bientôt, mais réfléchissez-y un instant aussi. Chaque année, la Pentecôte arrive, quelle joie il y a au ciel pour ceux qui ont été ajoutés au corps, ceux qui ont grandi dans le corps, et ceux qui se sont rapprochés davantage de Dieu. Réfléchissez-y également. Et nous avons appris à nous efforcer dans nos vies d'être guidés par le Saint-Esprit afin de pouvoir être là et ne faire qu'un avec Dieu. Passons à Philippiens 1, verset 27. Philippiens 1, verset 27. Nous avons lu pas mal de versets de Paul, mais inspirés en fin de compte par Dieu, mais ici, dans Philippiens 1, verset 27, l'importance que nous avons vue ce matin, l'importance d'être un avec Dieu et Christ, et la manière dont nous sommes, la capacité qui nous est donnée d'être cela par le Saint-Esprit. Philippiens 1, verset 27. Que votre conduite soit seulement digne de l'Évangile de Christ. Que je vienne vous voir ou que je sois absent, c'est ce que dit la lettre de Paul aux Philippiens, le point auquel nous allons arriver. Et que j'entends dire de vos affaires que vous demeurez fermes dans un même esprit. Nous devons donc tous demeurer fermes, c'est une instruction qui nous est donnée. Nous l'avons lu aujourd'hui. Restez fermes dans un même esprit, d'un même cœur, luttant ensemble pour la foi de l'Évangile. Pour la foi de notre appel. Pour le but de notre appel. Luttant ensemble pour accomplir, par le Saint-Esprit de Dieu, la prière de Christ dans Jean 17. Passons à 2 Corinthiens 13, verset 11. À la fin des lettres aux Corinthiens, Paul donne quelques remarques finales, quelques instructions de conclusion. Ce sont donc des instructions de conclusion qui s'appliquent également à vous et à moi aujourd'hui. 2 Corinthiens 13, verset 11. Enfin, frères, à Dieu, soyez parfaits, consolez-vous, soyez d'un même esprit. Vivez dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Soyez donc d'un même esprit. Telles sont les dernières paroles de Paul aux Corinthiens. Nous avons appris combien il est important pour nous d'être d'un même esprit. D'être d'un même esprit au sein de l'Église, en tant que membre du corps du Christ, et d'être d'un même esprit comme Dieu et Christ ne font qu'un. Revenons à Jean 17, verset 21. Revenons là où nous avons commencé. Jean 17, oui, lisons là où nous avons commencé, au verset 20. Je ne prie pas seulement pour eux, juste un rappel, par où avons-nous commencé ce matin? Par où le message a-t-il commencé? C'est Christ qui prie. Et il prie non seulement pour ceux qui sont là avec eux à ce moment-là ou autour d'eux à ce moment-là, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Nous avons cru en Christ, en fin de compte, grâce aux paroles de ses disciples à travers les âges. Christ prie pour nous tous, pour chacun d'entre nous, afin qu'ils soient tous un. Afin qu'ils. Que toi et moi, nous soyons tous un, comme ton Père est en moi et moi en toi, afin que nous soyons un comme Dieu le Père et Jésus-Christ sont un. Qu'ils soient aussi un en nous. Afin que nous soyons un, que toi et moi soyons aussi un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. En fin de compte, le monde le verra. Nous le verrons en toi et en moi. En chacun de nous, à mesure que le plan de Dieu se dévoile. Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. La gloire que Dieu a donnée au Christ, il nous l'a donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été donné. Donné à ceux d'alors, à Jérusalem, et donné à nous maintenant. Afin que nous puissions être un avec Dieu et Christ, et finalement, afin que tous ceux qui n'ont jamais vécu puissent aussi être un avec Dieu et Christ. Le jour de la Pentecôte, ce qui a commencé sera enfin achevé.